On va commencer par présenter les personnes qui se trouvent à la table. Patrick Fleury pour l'UFAC. Vincent Lettieron pour le CFTPG. Nicolas Alas pour l'UPCP. Laurent Bitté, la SPG. Julien Nicolet pour la FAMCO. Pamela Preston pour le SPG. Marco Spaglioni pour le SSP. Et David de Filippo pour le SIP. Bon appétit. Et moi-même, Marc Simet, le président du cartel. Bienvenue. Alors, traditionnellement, on regarde un peu la composition de la salle. Alors, on va demander, y a-t-il des personnes de l'université dans la salle? Bravo! Y a-t-il des personnes du parascolaire? La justice. Ah, tout ça, voilà, très bien, merci. Le social. Ah. Merci d'ailleurs pour votre courrier, un courrier qui fait froid dans le dos, mais qui est d'une réalité implacable. Merci à vous. Pour la santé. Bravo. Les enseignants. Sécurité. L'administration. Et puis les transports. Il y a des gens, mais oui, ils sont là. Voilà, je crois que j'ai oublié personne, ou bien. Les retraités, les lourds. Alors, c'est un message de soutien du secrétariat fédéral de Sud, dans le canton de Vaud. Nous tenons à vous souhaiter plein de succès pour la grève et la manifestation de demain. Votre lutte est cruciale pour nous aussi. Solidarité dans notre combat commun, amitié, fédération syndicale Sud. Voilà un premier soutien pour aujourd'hui. Et puis, je vais passer la parole aux radicaux de gauche. Amélia, si tu peux regarder, elle est... Ah ben voilà, si tu peux juste donner le micro.
Le Parti radical de gauche témoigne son soutien à tous les fonctionnaires. Alors certains disent qu'il faut réduire les impôts, que les taxes sont trop chères. Depuis longtemps, les fonctionnaires sont décriés. Certains même disent que vous êtes des privilégiés. Depuis plus de 15 ans, il y a eu beaucoup de baisses d'impôts. Elle bénéficie aux plus riches et puis des ressources de l'État sans que les chiffres du chômage ne baissent. Jamais il n'est précisé que le plus grand employeur du canton est l'État lui-même. Les coupes dans les prestations sociales et les privatisations s'étendent à tous les services et à toutes les populations en supprimant des centaines d'emplois dans le public, en condamnant des milliers de gens à la concurrence, aux baisses de salaire, aux licenciements. Souvenons-nous des services de nettoyage des bâtiments de l'État, tous privatisés. Souvenons-nous de nos commissariats fermés. Souvenons-nous du tragique destin de notre chère Poste et de leurs employés transformés en vendeurs de billets de loterie. Nous vivons aujourd'hui l'un des plus grands hold-up de notre histoire. L'argent public passe dans le privé, enrichissant toujours plus les grandes entreprises et leurs actionnaires et dégradant la République. Ces hommes d'affaires sont en train de tuer leur propre clientèle. Et ils n'y voient aucune incohérence. Ils sont soutenus par des politiciens naïfs ou complices. Ce n'est plus de l'économie dont il s'agit, mais bien d'une prise de pouvoir qui renie les acquis de la santé, de la sécurité et d'éducation pour tous. Concrètement, le combat que vous menez, qui nous réunit aujourd'hui, est sournois. C'est une énième réforme de la caisse de retraite, une nouvelle grille salariale pour les fonctionnaires. Alors on préfère peut-être sûrement rester chez soi, au chaud, sous les couvertures, en se disant ça va passer, mais il ne faut pas oublier que la retraite des fonctionnaires, ça concerne tout le monde, toutes les personnes qui touchent l'ABS, parce que protéger le système de l'ABS des fonctionnaires, c'est protéger l'ABS dans son ensemble. Avec ce nouveau projet de réforme de la CPEG, les fonctionnaires devront payer davantage et par-dessus le marché, les clauses liées à la pénibilité sont remises en question. Et il s'agit d'employés de l'État. Donc une fois ces réformes acceptées, qui arrêtera la course vers la privatisation, vers la suppression toujours plus grande des droits du travail. Personne ne le pourra. Vous êtes un rempart. Donc on dit non, non aujourd'hui. Car à travers ce combat, ce ne sont pas uniquement les conditions de travail du service public que nous défendons, mais les conditions de travail du privé qui sont aussi violemment menacées. Et aujourd'hui, la grille salariale de l'État est encore inscrite dans la loi. C'est important parce qu'elle ne peut pas être attaquée autrement que par référendum ou initiative. Avec SCOR, on prévoit de supprimer cet avantage qui protège les 40 000 personnes qui en bénéficient dans le canton. Si elle devient un simple règlement, et non plus une loi, la grille des salaires sera modifiable en un tour de main par le Conseil d'État. Ces conseillers d'État, d'ailleurs, qui au passage se sont arrogés un 14e salaire, alors que les emplois les moins rémunérés se verront relégués en seconde zone par des baisses de salaire. Logique ? Non. Alors qui peut accepter un tel mépris du travail, un tel mépris du droit des gens, à être traité dignement et avec respect ? Personne. Donc il faut dire non aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, le Parti radical de gauche vous soutient. Bon combat.
Merci. Merci pour ce soutien. Alors, je vais...
Pourquoi le Parti radical de gauche a-t-il la parole ici ?
Parce qu'elle l'a demandé et parce qu'on donne la parole à tout le monde. Donc si tu veux la prendre, tu peux la prendre.
Non, je ne peux pas la prendre. Mais je trouve inadmissible qu'un parti politique ait la parole ici, aujourd'hui. Inadmissible. J'aimerais entendre les syndicats, les organisations syndicales et pas un parti politique populiste. Merci.
C'est une... Bon, laissons l'affaire là. Le Parti radical de gauche a demandé de pouvoir lire un soutien. Il n'y a pas de raison que je ne donne pas la parole.
Bah, évidemment.
Toutes les personnes qui veulent nous soutenir peuvent prendre la parole. Je ne vois pas pourquoi eux n'en pourraient pas.
L'électoraliste.
Je vais vous rappeler encore une fois, vous le savez, et ça commence à bien rentrer, les signatures sur notre initiative Cartel Asloca. Il y a encore des feuilles qui se trouvent sur ma gauche, votre droite. Il faut en prendre encore, toujours continuer à faire signer. Vous pouvez nous envoyer tout ça jusqu'au 23 décembre à l'Asloca. C'est le 2 rue du Lac de Louis. Ou encore le cartel, jusqu'à vendredi 23, s'il vous plaît. Tout ce que vous avez autour de vous, que vous avez laissé un peu de côté parce qu'il n'y a qu'une signature, etc., il faut tout envoyer pour qu'on puisse véritablement arriver au bout et boucler cette affaire. Donc, merci de prendre quelques feuilles et de continuer à faire signer. Il y a aussi deux pétitions qui vont tourner cet après-midi ou qui ont déjà commencé à tourner. La première, c'est une pétition du service de la santé de l'enfance et jeunesse, SSEJ. Je passe la parole à Françoise Weber qui va vous en dire quelques mots.
Chers collègues, bonjour, merci d'être si nombreux. Alors moi, je vais juste vous informer que les collègues du service de santé de l'enfance et de la jeunesse, je ne sais pas si elles sont là, je ne les ai pas vues encore, mais elles vont nous rejoindre, ont, avec le soutien du site, déposé, ou vont le faire, une pétition qui réclame plus d'effectifs pour les postes d'infirmières scolaires et également les assistantes dentaires scolaires. Vous savez qu'elles ne sont pas assez nombreuses, c'est du pacte, ce n'est pas des enseignants. Et depuis des années, plus d'une dizaine d'années, leurs postes n'ont pas été augmentés. Donc aujourd'hui, la réalité dans les écoles, pour ce personnel qui fait de la prévention dans la santé, eh bien, ça devient très difficile, et pour les infirmières, les assistantes dentaires, les dentistes, et aussi les formatrices à la santé, ça devient très compliqué, elles ne sont pas assez nombreuses. Il est fréquent qu'une infirmière doive aller dans une semaine dans 8 écoles différentes, 6 ou 8, et puis elles n'arrivent pas à répondre à tous les besoins. Les éducatrices pour la santé, on a vu l'année dernière, des cours d'éducation et de prévention santé sexuelle ont été annulés à l'école secondaire. Ça devient très problématique. Il y a une très grande précarisation aussi de la population, des familles qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants chez les médecins dentistes, etc., qui envoient tout le monde service santé scolaire et personne n'arrive plus à suivre. Alors voilà, les collègues se sont mobilisés, elles ont toutes signé une pétition et les organisations d'enseignants et les collègues enseignants, eh bien, à juste titre, ils sont venus nous dire qu'ils ont envie de soutenir cette pétition. Alors cette pétition, elle est disponible sur la table du site, j'en fais circuler quelques-unes et toutes les organisations d'enseignants vont aussi l'adresser au sein des écoles. On va la remettre en tout début janvier, donc au plus tard, il faudrait nous la retourner au site, c'est marqué sur la pétition « Retour 30 novembre », mais on invite les enseignants, les enseignantes, le personnel scolaire à signer largement, parce que je pense que tout le monde est impacté et voit très concrètement le problème santé de se dégrader dans les écoles et que ça questionne qu'on puisse plus faire notamment information santé sexuelle, etc., par exemple. Donc voilà, on vous invite à nous la retourner au site, le personnel des écoles, d'ici pour la rentrée scolaire. Merci.
Juste pour compléter ce que vient de dire Françoise, j'ai envoyé cette pétition aujourd'hui à midi à tous les collègues de la SPG. Je l'ai fait simplement parce que j'entends très souvent des collègues se plaindre du manque de présence de l'infirmière, qui sont face à des problématiques santé, à devoir discuter avec les parents, qui sont pas complètement démunis, mais disons, qui sont peu soutenus, parce qu'effectivement, ces infirmières sont coupées en mille morceaux et doivent être au four et au moulin et n'arrivent plus à tout faire. Donc, s'il vous plaît, les collègues de la SPG, je m'adresse particulièrement à eux aujourd'hui, signez cette pétition. C'est l'occasion ou jamais de dire que vous êtes concernés par le problème, que vous en avez ras-le-bol de ne plus avoir le soutien de l'infirmière pour toutes ces problématiques-là qu'on rencontre au quotidien dans les écoles. C'est donc le moment ou jamais de vous mobiliser pour dire qu'on veut plus d'infirmières, qu'on a besoin de plus d'infirmières aussi en tant qu'enseignants. Merci.
Voilà. Merci.
Je parle au nom de mes collègues de soins à domicile, vous connaissez ça pour certains. Ce que vous venez de dire, c'est symptomatique de tout ce qui se passe dans tous les services publics. Je vais vous raconter une petite histoire. Comme il n'y a pas assez d'infirmières au service santé jeunesse, où est-ce qu'on va donner les prestations? Vaimad, forcément. C'est nous qui prenons tout. Nous prenons aussi les soins des personnes handicapées, que les éducateurs, socio-éducateurs ne peuvent plus prendre en charge par manque de personnel. Donc, en fait, je vous encourage vraiment à signer cette pétition très largement en dehors des enseignants, mais aussi au sein de tous les services de santé, parce que c'est essentiel. Dès qu'on enlève un poste quelque part, il faut le créer ailleurs, ou bien, à mon avis, il faut arrêter ce jeu de dupes, il faut créer des postes là où il le faut, avec les bonnes personnes au bon endroit.
Merci. Effectivement, on va revenir sur cette question tout à l'heure.
Je travaille au Centre de formation professionnelle santé sociale. Et pas plus tard que tout à l'heure, à midi, au moment où le mouvement se mettait en marche, dans la salle des maîtres, c'est vrai qu'on avait un débat, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des tas de questions et collègues venaient nous dire, mais au fond, ce budget finalement, ça va ou ça va pas? Parce qu'il paraît que ça va pas si mal. Il y a une histoire d'annuité, paraît qu'elles reviennent. Donc en fait, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes pour qui la situation n'est pas claire. Et pourtant, j'ai l'impression que ces informations, elles ont été données. Voilà, donc je ne sais pas très bien ce que vous faites, mais je voulais juste partager avec vous ce petit moment de doute et d'échange qu'on avait eu. La même chose par rapport à SCORE, mais SCORE, redis-moi, c'est quoi vraiment le problème? Voilà, c'est les questions qu'on avait sont liées à la salle des maîtres, je voulais juste les partager avec vous.
Merci. Alors, je vais les avoir, donc je pense maintenant que je vais vite. Parce que énormément de ces questions que les collègues de Madame posaient dans la salle des maîtres sont adressées sur ce tract qui a été fait exprès pour la population. On en a, je crois, plusieurs milliers d'exemplaires qui se trouvent justement vers la sortie et que certains d'entre vous, lorsque nous partirons après en rassemblement, enfin d'abord en cortège puis après au rassemblement de la treille, peut-être, alors s'il ne pleut pas à verse, parce que sinon ça va devenir du papier mâché, mais s'il ne pleut pas à verse, d'en prendre un peu dans la main et pour les donner aux gens que vous croisez dans la rue pour expliquer pourquoi nous sommes dans ce mouvement maintenant, pourquoi on a reconstruit un mouvement,
pourquoi cette mobilisation a repris. Vous avez tout ce qui nous tombe dessus, c'est expliqué en quelques mots. Donc s'il y a encore des doutes par rapport à le budget, est-ce qu'il va, score, finalement, c'est grave, pas grave, la caisse de prévoyance, le PFQ, PF17, enfin, toutes ces évaluations magnifiques, eh bien, tout est là, donc prenez-en, et puis distribuez-le. C'est principalement fait pour la population, mais je pense que ça peut tout à fait intéresser les collègues de madame, qui n'auraient peut-être pas reçu dans leur boîte encore de tracts, d'explications correctes. Je rappelle aussi que le cartel a un site internet où vous trouvez toutes les infos. Je rappelle qu'il y a une page Facebook aussi, où il y a énormément de choses qui se trouvent là-dessus. On était un peu sur le cul, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. Quand Laurent me dit qu'il est allé dans une école, hier, et puis il demande aux collègues de l'école s'ils avaient bien signé l'initiative. Et alors là, les gens regardaient, genre, les yeux de Merlin Free, et mais de quelle initiative parles-tu? Et là, on se dit, mais c'est quand même pas possible, parce que pour nous, au bureau et au comité, je crois qu'on balance un tract, une newsletter, à peu près depuis le mois de septembre. Donc, je ne sais pas à combien on est, mais on est à beaucoup.
Allez.
Mais donc, voilà. Et puis, on nous dit encore, il y a eu plein d'articles dans les journaux, il y a eu plein de choses. Et les gens nous disent qu'ils ne sont même pas encore au courant. Donc là, ça doit nous interpeller, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne joue pas au niveau de la com. Mais nous, on a l'impression d'en faire énormément, alors je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas plus loin. Là, il y a un questionnement. Voilà, je voulais juste vous dire ça, donc n'oubliez pas d'en prendre, si jamais, après, pour les distribuer.
Bonjour à tous, je travaille à la Fondation Clairvoix. Voilà, moi ce que je voulais vous faire part, c'est que hier, par exemple, lors de l'AG du personnel qu'on a fait pour cette mobilisation d'aujourd'hui, ce qui m'a quand même frappé, c'est au niveau de l'adhésion à la cause, ça paraît compliqué pour certains, parce que le dossier est quand même score, c'est technique et c'est un gros effort de même pour quelques gens qui apprennent quelque chose, qu'on n'a pas vraiment détenant les aboutissants, de l'opacité dans laquelle on nous laisse. Maintenant, au niveau de la mobilisation, j'avoue que j'ai pas mal insisté sur le fait de l'engagement qu'il faut prendre et de la responsabilité de chacun par rapport à notre futur à tous et à l'importance des enjeux qui se jouent. On est en tout cas pour le foyer que je vous présente une petite vingtaine. Sur un foyer, j'en ai en tout 250. C'est un début. Je remercie les gens qui se sont levés et qui sont venus. Je sais qu'il y a d'autres voix dans l'Assemblée. Voilà, je pense qu'il y a quand même un temps d'intégration des infos et de ce qui se joue qui est nécessaire pour que les gens, petit à petit, se disent « oui, ça me concerne ». Voilà, merci.
Juste vous donner quelques nouvelles de la mobilisation dans l'enseignement primaire. Quand je suis parti du bureau tout à l'heure vers midi et demi, il y avait 72 écoles concernées par la grève sur 160, et puis 14 structures de l'enseignement spécialisé, office médico-pédagogique. Après, dans ces écoles, c'est ou bien toute l'école, toute l'après-midi à 100%, etc., ou bien parfois des éléments isolés qui ont décidé tout seuls de faire grève, et donc j'espère qu'ils sont là parce que faire grève tout seul à la salle des maîtres, c'est relativement déprimant. Donc voilà, on n'est pas tout à fait à 50%, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Alors j'espère que quand je retournerai au bureau tout à l'heure, il y aura de nouveau quelques personnes qui se seront annoncées et que je pourrai faire encore grandir cette liste. Merci.
Je suis enseignante au site de Montbrillant, qui est bien présente aujourd'hui parce qu'on a 70%. Wow. C'est important de faire la grève, c'est fondamental. Je pense que c'est fondamental de venir aux assemblées, parce que c'est là qu'on entend les mauvaises nouvelles, c'est bien primant. Mais c'est là qu'on puise l'énergie de faire la grève.
d'aller surtout manifester, parce que ce qui dérange le conseiller d'État, ce qui dérange les politiciens, c'est le bruit qu'on fait dans la rue, c'est le fait qu'on, tout à coup, Genève n'est plus aussi propre qu'elle devrait l'être. C'est ça qu'on doit faire. Et les gens qui font pas grève, ils font qui ça, et dans la rue, c'est très important. Venez aux assemblées, venez aux manifestations.
C'est comme ça, tout le monde en mouvement, il faut.
Bonjour, Dario Lopreno, tout le reste, je suis désolé. Je pensais juste deux choses. Je pense qu'il faudrait essayer d'élaborer le flux de l'année 2018, quand tous les cadeaux auront été déballés, de faire un travail sur deux niveaux. Je pense qu'il serait bon dans les partout où on est présent. De séparer d'une part un travail en direction du personnel sur SCORE, la CPOG, le projet fiscal 17, le projet de budget qui sera peut-être plus projet, mais qui de toute façon demandera une bataille pour des compléments, etc. Et un travail envers les associations d'usagers et envers, je pense aussi, les associations de quartier, des endroits où sont implantés chacun de nos établissements, sur le projet fiscal 17 et le budget 18. Parce que c'est des choses qui concernent tout le monde, où on peut faire des ponts réels, je pense, avec la population, et où on peut peut-être essayer de convaincre plus largement des enjeux qui ne sont pas juste les enjeux de corps et biologiques, qui sont essentiels pour tout le monde, mais qu'on ne peut pas proposer comme ça à des personnes en dehors des salariés de la fonction publique. Par rapport aux autres. Et je pense qu'il faudrait faire un effort sur ces deux plans dès la rentrée. Voilà, c'est plutôt que maintenant il y a un flou peut-être pour des gens, il faut expliquer, il faut faire un travail. Il y a aussi un flou parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des petites carottes qui sont données dans les saloperies qui nous sont imposées. Vous avez vu, il y a toute une propagande qui est faite pour dire que le projet fiscal permettrait à la Suisse d'entrer dans les normes de l'Union européenne et de l'OCDE. Au niveau fiscal, donc ça apaiserait beaucoup de gens. Il y a un travail que les ONG qui travaillent notamment sur le tiers-monde ont fait de manière très sérieuse pour montrer que si le projet fiscal est admis par l'Union européenne, s'il passait tel qu'il est, s'il est admis par l'Union européenne, c'est pas une preuve que la Suisse entre enfin dans le rang, c'est une preuve que l'Union européenne ne veut pas s'affronter à la Suisse, à Singapour et aux États-Unis, qui ont des législations complètement en rupture avec les normes fiscales internationales. Donc, il faut aussi expliquer un peu aux gens la saloperie qui sont ces choses et qu'est-ce qu'il y a derrière comme manque à gagner. Le Conseil fédéral nous avait dit qu'on perdrait 80 millions sur la RIE2. On a perdu 1,1 milliard. Aujourd'hui, il nous dit qu'on va perdre 850 millions sur le PF17. Est-ce que ça va être 3 milliards ? Au niveau cantonal, on n'est pas loin de la somme qui est annoncée fédéralement. Donc il y a peut-être, je pense, en même temps, préparer un gros travail d'explication simplifiée, de papier sortant des lieux où on est pour essayer d'expliquer aux gens largement, mais vraiment faire en contact avec la population, associations d'usagers, associations de quartier. Et je pense que dans l'enseignement, c'est vital de passer par les associations de parents, par les associations d'élèves à partir du poste obligatoire, etc. Voilà.
Bonsoir à tous et à tous. Alors, je représente un peu le domaine de la santé. Alors, dans le domaine de la santé, le poste manque. Le personnel est usé, 12% d'absence à l'IMAR et 8% aux UG. À l'hôpital, pour 2018, la direction présente un budget déficitaire de 6,4 millions. Jusqu'aujourd'hui, on avait un os à ronger. Pour demain, on se demande si on n'aura même plus d'os à ronger. Dans la santé, on nous fait miroiter avec SCORE, une augmentation de salaire, c'est trop peur. Dans la nouvelle loi, le salaire sera modifiable tout le temps. Les primes qui sont données aujourd'hui reconnaissent le travail pénible. On travaille la nuit, le week-end et le jour férié. Le montant des primes sont connus. Et demain, point d'interrogation, on ne saura pas. À votre place, si vous étiez directeur et vous deviez financer les postes pour répondre aux besoins de la population, sans l'argent nécessaire, devant faire des économies demandées par le Conseil d'État, que feriez-vous à part baisser le salaire? C'est un engrenage infernal. Je suis à l'IMAD et je dis basta. Alors, mettons-nous ensemble tous et disons stop à tout ça.
Aujourd'hui, parce que je pense que mon service, on a vraiment très très peu par rapport à la grandeur du service. C'est entre autres dû au nombre d'absences qu'on a. On en discute en colloque avec ma chef, je ne sais plus, pas la semaine dernière. Je pense que, à vue de nez, comme ça, on a au niveau des absences, on a concrètement une à deux sections. Enfin, le nombre d'absences représenterait une à deux sections d'absences. Donc on a beau avoir des remplaçants sur place qui peuvent tamponner un bout, on est vraiment sous la surcharge. Il y a des IPE qui ont délaissé de leurs collègues parce qu'il n'y a pas de remplaçants. Au niveau des chefs, c'est pareil. Donc voilà, ça complique la possibilité de mobiliser les collègues tellement ils sont surchargés. De faire même une heure de grève, ça semble énorme par rapport à la quantité de travail qu'il y a, d'autant plus avant les fêtes. Notre direction prend un peu la mesure de la situation en tentant de mettre des mesures urgentes en place, mais ces mesures ne font que reporter le problème, en tout cas jusqu'à la rentrée de janvier. Donc voilà, un peu pour dire que du SPMI, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais les collègues qui sont restés au travail, la plupart soutiennent bien la grève et certains sont vraiment tiraillés entre deux feux de ne pas être là aujourd'hui. Donc voilà pour la première chose. Et la deuxième chose, je profite d'avoir la parole. Pour le secteur social, on proposait de faire un tronçon derrière une banderole qu'on a fait avant, histoire qu'on se regroupe tous pendant la manif. Voilà.
Je suis chargé d'enseignement à EPIA, une HES, éclatée sur deux sites. Nous, dans un premier temps, on a été défonctionnalisés. Plus récemment, on nous a dit que ça ne changeait rien. Après, on nous a proposé des CDI de 4 ans renouvelables. Et puis, une nouvelle grille de salaire où les plus hauts sont payés beaucoup plus qu'avant et les plus bas, les assistants, sont payés beaucoup moins qu'avant. Pareil, c'est comme ça à l'université, donc c'est beaucoup mieux. Donc évidemment, les bas salaires se plaignent beaucoup. Malgré ça, il y a quelque chose de beaucoup plus déprimant par rapport aux autres témoignages. On doit être sur 360, me disait mon collègue Eric Gény, salarié. Il doit y avoir entre 3 et 6 grévistes déclarés, donc entre 1 et 2%. Sur le site de Lullier, je crois que je suis le seul. Donc à chaque fois que je viens, je me dis non, il ne va pas y avoir grand monde. Donc ça me fait chaud au cœur, comme disait un des intervenants précédents, reprendre l'énergie ici. J'ai essayé d'en discuter avec des collègues. Ah, mais non, on soit allé, je me demandais s'ils recevaient l'info, quoi. Mais oui, on la reçoit, mais on n'ouvre jamais les mails de la GEF, on n'ouvre jamais les mails du cartel, donc ça ne nous intéresse pas tout ça. Donc je me heurte à un mur de désintérêt total. La seule personne avec qui j'en ai discuté, c'est un collègue qui m'a adressé en me disant « Mais j'ai vu manifester contre SCORE, si t'es contre SCORE, c'est que t'as rien compris, parce que SCORE, c'est super bien. » Voilà, c'est la seule chose que j'ai pu discuter avec un collègue, c'est un peu difficile d'aller plus loin. Je ne sais pas si j'avais d'autres choses à dire, je ne vais pas en rajouter, juste pour dire voilà, je me sens assez seul, je ne vois pas de solution non plus, pour ça les mails ne nous voient pas. Du coup, le track, je l'ai imprimé, je l'ai affiché, je ne sais pas si... Là, au moins, je ne vais pas dire que c'est une question. Voilà, bon, moi ça me fait très chaud au cœur et ça me redonne de l'énergie d'être avec vous ici.
Alors, s'il n'y a
pas de prise de parole tout de suite, alors certainement qu'ils vont revenir, enfin, redemander. On va un petit peu continuer et on va positiver un peu maintenant. On s'est vu le 4, on était 2000 et c'était le début et c'était bien. On a fait plein de bruit, on a vraiment commencé une belle mobilisation. Et je pense que la table a envie de vous dire que ça, c'est très positif dans les relations que nous avons avec le Conseil d'État. Et puis peut-être que ça aura aussi un bel effet sur le Grand Conseil. Déjà tout à l'heure, les discussions ont commencé. Il semblerait qu'une majorité se dessine pour voter la nuit est pleine. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. La nuit est pleine, je vous rappelle qu'au départ, le Conseil d'État avait dans son projet une demi-annuité. La commission des finances qui s'est saisie de ce projet de loi a voté par 8 voix contre 7, il y a 10 jours, une semaine, qu'elle se prononçait contre la demi-annuité et en faveur d'une annuité pleine. Et donc, ce sera tout à l'heure, aujourd'hui ou demain, que le vote sera pris en plénière ou en conseil. Il se trouve que ça a l'air d'aller plutôt dans l'autre sens, donc ça, bien sûr, c'est dû à la mobilisation qui recommence. Il y a aussi le souvenir de ce que nous avions fait en 2015, et je vous rappelle, hein, les 7 journées de grève, les 10 manifestations, plus que 10 000 personnes dans la rue au plus fort des manifestations. Tout ça, c'est resté dans la tête de ces gens, au Grand Conseil, mais aussi au Conseil d'État. Et donc, c'est encore une fois la preuve qu'il faut capitaliser sur les mobilisations qu'on a eues et sur les victoires que nous avons obtenues. Là, ça recommence et ça a l'air d'ouvrir un petit peu les portes. Et c'est David qui avait utilisé l'autre soir cette image. C'est la porte qui s'ouvre. On a entrouvert la porte. Maintenant, il s'agit de bien mettre le pied dedans. Puis après, on va la faire voler en éclats, cette porte. Mais pour ça, faire voler cette porte en éclats, il va vraiment falloir continuer sur la longueur. Et donc, on va faire ça. On va vous proposer tout à l'heure une suite de mobilisations. Mais avant de partir là-dedans et de voter déjà sur la suite, il y a deux sujets qui sont en lien véritablement avec le projet de budget qui méritent d'être encore abordés. Vous avez entendu les situations dans certains services sur les coupes budgétaires, qu'elles soient linéaires ou qu'elles soient dans certains services jusqu'à 15% qui ont été exigés, 5%, 10% où on pouvait le faire, qui amènent une souffrance au travail et des prestations forcément beaucoup plus difficiles à réaliser. Et je vais passer la parole à Jean-Luc qui va faire un petit état des lieux de ce que l'annuité représente pour le subventionner, parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et peut-être que certains collègues travaillant dans des services où l'annuité elle est pour soi n'ont pas encore ça en tête. Merci beaucoup.
Voilà, bonjour. On a effectivement adressé un courrier aux députés ce lundi pour leur rappeler les fonctionnements des financements de la plupart des institutions subventionnées qui sont extrêmement complexes. Et parce qu'en fait, ils ont refusé l'entrée en matière sur un projet de loi qui demandait le financement intégral des mécanismes salariaux pour tous les secteurs subventionnés. Parce qu'en fait, ces financements, ils sont assez complexes. La subvention représente une partie de leurs ressources. Et puis, elles sont complétées. Donc, ça concerne toute la santé, tout le social. Et la subvention représente en moyenne entre 50 et parfois 80% des ressources. Et puis, le reste, eh bien, c'est, ça peut être couvert par les assurances, par exemple dans la santé, mais via des mécanismes de financement tout à fait particuliers. Et puis en fait, là où il y a une parfaite mauvaise foi de la part des députés, à droite, pour pas les nommer, qui a refusé d'entrer en matière, c'est qu'ils disent la chose suivante. Ils disent deux choses. La première, c'est M. Dalbousco qui l'a dit. Il dit les institutions, elles ont qu'à négocier comptablement les contrats de prestation pour obtenir ce qu'il faut pour financer les mécanismes salariaux. Et c'est une vraie mauvaise foi, parce que depuis maintenant des années, chaque fois qu'il y a un renouvellement de contrat de prestation, les montants sont bloqués, à l'exception des nouvelles places qui doivent être ouvertes, soit dans le social ou dans la santé, mais qui subissent elles-mêmes également les coupes. Et puis d'autre part, ces contrats de prestation, même quand ils sont signés par les institutions pour 4 ans, eh bien, c'est sous réserve de vote du Grand Conseil, Et puis du coup, quand le Grand Conseil coupe, eh bien pour les mêmes prestations à fournir, il y a moins d'argent. Donc c'est parfaitement éhonté de tenir cet argument-là. Je veux dire, c'est soit il ne connaît pas ce qui se passe, soit il est de mauvaise foi. Donc on vous laisse le choix. Le deuxième mécanisme qui est très problématique et l'argument qui a été avancé, c'est de dire, mais en fait, il n'y a qu'à compenser les coupes dans la subvention par les autres sources de financement. Mais ça aussi, c'est complètement illusoire, parce que ces autres sources de financement, elles subissent elles-mêmes des baisses. Et bien souvent, elles n'ont pas vocation à financer la masse salariale. Donc, je vous en donne quelques exemples, pour qu'on se rende compte, parce que je crois que c'est important aussi, quand on parlait de mobilisation, d'avoir des informations claires à fournir aux collègues pour dire pourquoi, eh bien, dans tel secteur, on se mobilise, parce que les raisons, elles se cumulent, mais elles ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Alors, je vous donne quelques exemples. Le TARMED, là, vous avez vu que le TARMED qui doit financer les frais d'intervention, eh bien, il est revu à la baisse. De même que les frais de pension, qui concernent les EMS et les EPH, sont revus à la baisse également. Ce qu'on appelle les DRGSL, les forfaits de facturation pour les interventions médicales. C'est des forfaits. Ils ne couvrent pas les frais effectifs. Or, dans un hôpital universitaire comme celui de Genève, on a plus de cas complexes que dans d'autres types d'établissements. Et du coup, bien souvent, ces forfaits ne couvrent pas du tout les coûts effectifs qui sont engagés par le type d'intervention dont on a besoin. C'est la même chose dans l'aide à domicile. Plusieurs collègues se sont déjà exprimés aujourd'hui. Dans l'aide à domicile, chaque geste est minuté d'un type TARMED. Et je vous donne un exemple. Pour donner les gouttes, c'est 6 minutes. Eh bien, ça ne prend pas en compte ni le trajet. Il y a 200 à 300 000 heures annuelles de trajet qui ne sont du coup pas couvertes par les frais des remboursements par les assurances. Et puis, effectivement, ces 6 minutes, elles ne tiennent compte ni du lien social à établir, ni de rien d'autre. Donc, en fait, avec ces 6 minutes, vous devez monter l'ascenseur, il est peut-être bloqué, il faut attendre, rentrer, se laver les mains, se préparer, retrouver les gouttes, dire bonjour, accueillir la personne. Ouais. Et c'est ça les modes de financement des autres institutions. Donc c'est vraiment de mauvaise foi de dire que ça devrait couvrir ce que justement la subvention doit permettre de couvrir. Je donne encore juste un exemple intéressant, c'est que dans beaucoup d'établissements qui accueillent des personnes handicapées, il y a des ateliers. Eh bien, ces ateliers, avec les baisses de subventions, les institutions ont voulu en augmenter la rentabilité. Sauf qu'il y a deux problèmes. Ces ateliers qui sont sur le marché ordinaire, bien souvent, eh bien, ils subissent les impacts de la crise. Et du coup, ben, certains perdent des mandats. C'est du cartonnage, c'est de l'emballage, c'est d'autres éléments de fabrication, mais c'est pas forcément évident de pouvoir trouver le preneur dans une période où toute l'économie subit certains éléments de crise. Et puis du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils doivent écarter, pour augmenter la rentabilité, ils doivent écarter les personnes les plus lentes qui sont comme ça à la tâche. Et du coup, on leur offre plus des occupations pour les occuper, ce qu'on appelle de l'occupationnel. Et pour eux, c'est vraiment, c'est retour à la maison, c'est on n'a plus besoin de vous. Et donc, d'une certaine manière, on ne répond plus à l'objectif premier de ces institutions, qui est de permettre à ces personnes d'avoir une activité, d'être valorisées. Donc voilà, ces coupes dans les subventions, c'est un mensonge que de dire qu'elles peuvent être compensées ailleurs, et il faut qu'on puisse le dénoncer. Et puis je terminerai en disant que ça a plusieurs conséquences. Ça a des conséquences, évidemment, on le sait, sur les coupes, qu'on a vues un petit peu partout, mais cette année, dans le secteur social en particulier, ça allait beaucoup plus loin. Un des employeurs a écrit à la FETIER pour dire on ne peut plus assurer la convention collective. On propose de la remettre en question et de ne plus assurer le financement des mécanismes salariaux. Pas le financement, l'application des mécanismes. De sortir carrément des grilles salariales de l'État. Évidemment, les collègues se sont mobilisés, ont lancé une pétition, a recueilli 400 signatures, et puis l'institution a revenu en arrière. La FETIER a dit peut-être pas une bonne idée d'ouvrir un front de guerre sociale, c'est une véritable déclaration de guerre, c'est l'équivalent de l'état de la retraite. La remise en cause de la convention collective, c'est dorénavant, c'est le code des obligations, si on n'arrive pas à négocier mieux. Donc c'est vraiment la remise en cause, le fort en compte de vos conditions de travail dans ce secteur. Et du coup, les institutions, elles sont montées en créneau en disant on va essayer de négocier ça dans le cadre des contrats de prestation cette année, puisque les contrats de prestation, c'était 2014-2017, et il y a la nouvelle série 2018-2021 qui doit être négociée. Alors au niveau départemental, ils ont obtenu gain de cause. Le DAES et le DIP ont dit oui, on comprend. Aujourd'hui, vous allez atteindre la ligne rouge, les réserves ont été mangées, il n'y a plus d'argent, ça devient risqué. Et ils ont introduit cette clause dans les contrats de prestation. Et bien en fait, la majorité de la commission des finances et le Conseil d'État ont dit non, on n'est pas d'accord, on doit continuer à couper, on maintient notre ligne dure de réduire la part de la fonction publique. Du coup, pour la première fois, ces institutions viennent un peu sur notre terrain et elles ont refusé, pour l'instant, de signer ces contrats de prestation. Ils sont en stand-by, ils ont écrit à la commission des finances et au Conseil d'État. On peut dire qu'en fait, ce système, aujourd'hui, il est quasiment mis en crise. Sauf que, dans leur courrier, ces employeurs continuent à dire on pourrait dénoncer les conventions collectives. Donc, je rends attentif ici tous les collègues de l'ensemble de la fonction publique, c'est un des biais par lequel le démantèlement de nos conditions de travail est vraiment sur le pas de la porte. Et je crois que ça vaut la peine de le dire à tous ceux qui aujourd'hui doutent des raisons de se mobiliser parce que l'heure est vraiment extrêmement grave. Donc on a écrit aux députés, disons cette lettre, ils travaillent aujourd'hui, évidemment qu'on sait que la marge de manœuvre elle est limitée, le budget est déjà déficitaire, il est déficitaire à cause des coupes fiscales, et c'est à la population via tous ces services et à vous qu'on le fait payer, c'est ce qu'il faut dénoncer. Merci.
Merci Jean-Luc. Alors, je vais passer la parole à Vincent du SEVTPG, parce que vous savez que la dernière fois, nous n'avions pas reçu de message de la part du SEVTPG, si ce n'est un message de soutien, je veux dire, mais pas de... Oui, non, message de soutien, il n'était pas venu nous rejoindre dans la lutte, mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont venus en petit nombre, et j'aimerais que vous puissiez entendre, et peut-être lu dans les journaux, qu'il y a un manque chronique de postes aussi chez les TPG. Et donc, je passe la parole à Vincent pour qu'il nous dise un petit peu tout ça. Merci.
Bonjour. On a envoyé la question, bien précis. Ben, je commencerai par la fin. Je pense que ce qu'il vient de dire aujourd'hui est quelque chose qui nous touche particulièrement au TPG, à savoir le contrat de prestation. Je crois qu'on est une des premières entreprises, l'établissement public, pardon, à passer sous contrat de prestation. Ce contrat de prestation, c'est une arnaque. C'est une arnaque monstrueuse. C'est un déni de démocratie, c'est faire plus avec moins, c'est passer des contrats, et chaque année, des contrats quadriennales, et chaque année, on baisse le budget, parce que, ben voilà, ben, c'est comme ça. Et si vous n'avez pas en plus une direction qui se bat en disant « Non, non, attendez, vous baissez l'enveloppe, on baisse les prestations. » Eh bien, je veux dire, on fait plus avec moi. C'est des contrats, et peut-être que ce qui est en train de se passer au TPG est quelque chose de très particulier. Je crois que ça fait maintenant bientôt 20 ans, si je ne me trompe pas, qu'on est sous le contrat de prestation. Eh bien, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du contrat de prestation au TPG qu'un magistrat, un conseiller d'État, il dit, non, on ne va peut-être pas en parler avant les élections. Donc ça présage rien de bon après les élections. Donc c'est la première fois et le cause est en train de se positionner. Une fois que je vous ai parlé du contrat de prestation, les conséquences du contrat de prestation, bah, c'est ce qu'on vit aujourd'hui au TPG. Le manque d'effectifs, le manque de personnel. En même de personnel, et je pense que, et là on rejoint largement le problème au niveau de la fonction publique, à savoir aujourd'hui, nous sommes à des conditions comme inscrites dans la presse, hein, 14% d'absentéisme. En moyenne, Suisse, dans les transports, c'est à peu près 5-6%. 1% d'absentéisme, c'est 3 millions de dépenses. Aujourd'hui, nous avons depuis un an, bientôt 3 ans, mené une activité pour dénoncer le manque de personnel et qui se traduit par des horaires mortels, des horaires, insupportables, et en particulier chez chez les producteurs, et également dans l'administration. L'administration, ils sont à peu près au même taux, ils sont à peu près 11% d'absentéisme, des burn-out à n'en plus finir, des burn-out déjà en place, des burn-out à venir, parce qu'on sait que ça va venir. Et c'est le résultat, et je rappelle, c'est le résultat de ce qu'on appelle à faire plus avec moins. Ça fait des années qu'on fait plus avec moins. Nous avons déposé en décembre 2016 un préavis de cadre. On n'a pas fait la grève du cadre. Mais le préavis existe. Le fait d'avoir déposé un préavis de grève à cette date-là, ben, l'entreprise s'est engagée à recruter 40 chauffeurs en plus. Ça paraît bien, hein? Mais c'est largement pas suffisant. C'est d'autant pas largement suffisant que ces 40 conducteurs qu'ils ont engagés ne consistaient qu'à réduire les heures supplémentaires et les congés qu'ils suppriment. C'est-à-dire que ça permettrait uniquement aux conducteurs de pouvoir prendre des congés qui étaient prévus dans le contrat. Et ils appellent ça une avancée sociale, hein. Donc, il y a bien sûr cette souffrance. Et bien sûr, une fois qu'ils ont pris ces 40 chauffeurs, ils n'ont pas arrêté l'après-midi, parce qu'ils disaient, mais quand même, on va réduire quand même l'absentéisme, on va réduire les possibilités de tomber malade. Eh bien, chaque semaine, ils nous mettaient un panier de fruits. Mais c'est pas une blague, hein. Tous les lundis, on avait un panier de fruits frais.
Mais non.
Dans chaque secteur. Et pour la semaine, pour 1800 personnes.
Mais non.
Donc le gars qui se retrouve avec le noyau pêche, il a pas de la chance. Et une fois qu'ils ont vu que bon, bah, la pomme ça suffit pas pour réduire l'absentéisme, ça va plus rien, hein. Donc quand même, on profitait quand même du fruit. Et bien ils ont mis en place un nouveau dispositif qui s'appelle Osons la bienveillance. Vous ne riez pas, hein, c'est Osons la bienveillance.
Ça c'est un gros mot.
C'est une nouvelle manière de communiquer avec les personnes qui sont malades. Et aujourd'hui, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, on s'attaque aux personnes qui sont en souffrance. On s'attaque aux personnes qui sont atteintes de leur santé. On les fait venir pour leur dire, messieurs, mesdames, il faut que vous repreniez le travail d'une manière ou d'une autre, sinon votre contrat est tombe. On est dans une situation aujourd'hui au TPG où le contrat de travail, qui sont les statuts, sont remis en question d'une manière insidieuse. C'est-à-dire, à force de bricoler sur les horaires, sur les conditions de travail, sur toute une série de choses qui devraient être d'après un règlement, ils sont en train d'instituer ou codifier le bricolage. Ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils veulent l'écrire. Tout en bricolage, là, ils veulent le mettre sur papier. Mais c'est du bricolage. La réalité, elle est indiscutable. C'est qu'aujourd'hui, il manque, ne serait-ce que chez les conducteurs, encore une centaine de choses de conducteurs. Si aujourd'hui ils investissent dans les conducteurs, leur taux d'absentéisme serait réduit. Et je vous répète, 1% de réduction du taux d'absentéisme, c'est 3 millions de gagnés. C'est pas moi qui le dis, hein, je suis capitaliste. Je leur dis tout simplement investissez pour gagner de l'argent. Eh ben non, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et lorsqu'on leur dit ça, non mais c'est pas nous, c'est le conseil d'État, bien. C'est le conseil d'État. Il ne faut pas oublier qu'il reste quand même quelques mois avant les élections. Il n'y a rien, mais absolument rien, qui dit que le personnel du PG ne va pas partir en grève dans la prochaine période. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont attaqués à un point commun. Ouais, ils se sont attaqués à un point commun au TPG en particulier, à savoir les statuts du personnel. Vous savez, lorsqu'on parle des grilles de salaire, les grilles salariales, les conditions de travail, les mécanismes salariaux, c'est pas rien, c'est un acquis. Lorsqu'au TPG, les grilles salariales ont été mises en place, c'était pour le personnel une garantie d'un plan de carrière, et quelle que soit la couleur politique de son patron. C'est ça les grilles salariales, c'est ça les plans de carrière. C'est-à-dire, quel que soit votre patron, vous avez un plan de carrière, vous avez des annuités, vous pouvez avancer. Voilà. Même ça, ils remettent en question. Même ça, ils voudraient remettre en question au TPG. Mais au TPG, c'est quand même plus compliqué, je suis obligé de vous le dire. Hein. On est quand même à un taux de syndicalisation qui est près de 80%. Non, mais c'est une réalité aujourd'hui. S'attaquer au TPG, c'est véritablement s'attaquer à la fonction publique. S'attaquer à la fonction publique, c'est s'attaquer d'une manière ou d'une autre au TPG. Et on le sait. Aujourd'hui, le combat pour la défense du service public, et j'ouvre une parenthèse là, il y a un an en arrière, il y avait un projet de loi qui consistait à augmenter la sous-traitance des TPG, qui aujourd'hui est limitée par la loi à 10%. Il y avait une vérité de passer à 15%. Et à ce moment-là, il ne s'est pas trouvé une majorité au Grand Conseil pour la voter, donc elle avait été remise à la Commission des Transports, donc elle avait été quelque part gelée. Ben, elle ressort. Mauvais calcul politique, peut-être, parce que c'est juste avant les élections, ou c'est juste pour faire un tout petit peu peur. Mais toujours est-il, ça nous prend au lien encore, je veux dire, la volonté d'une manière ou d'une autre, d'avancer dans la privatisation des TPG. Et donc, je reviens sur ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un combat commun. La caisse de pension, non, parce que nous n'avons pas la même. Mais par contre, les dégâts sont les mêmes. Hein. Les plans d'investissement, c'est nous, c'est chaque année. Alors, allez, vas-y, vas-y. Même à un point où on dit aux gars, là, si tu peux partir, dégage. Hein. Là, il n'y aura plus rien de rester si tu restes. Donc, le point commun, c'est effectivement le combat aujourd'hui pour les services publics qui doit nécessairement passer par l'embauche, par la création de postes, par le fait de pouvoir faire notre travail comme il faut, et d'une manière saine, et non pas qu'on nous pousse à bout et on tombe malade. Il faut qu'il y ait l'embauche dans les services publics et au privé. En tout cas, je ne vous le dis pas, je vous dis ni oui ni non, mais toujours est-il que nous sommes très très attentifs au développement de ce qui est en train de se passer au niveau de la fonction publique, et pourquoi pas, à un moment donné, se dire, ben, on va faire la fonction.
Voilà. Ouais.